La geek de service.
Épisode 46, en mode vacances et tentative de déconnexion, même si je ne suis pas bien bonne. Je dois avouer que j'essaie de prendre des journées sans trop jouer sur l'ordi, mais j'ai quand même beaucoup de partage encore sur les réseaux sociaux. L'été, j'aime beaucoup en profiter pour écouter une tonne de balados. C'est vraiment une façon d'apprendre et d'écouter que j'aime beaucoup parce que ça me permet de faire toutes sortes d'autres choses en même temps. Donc, par exemple, de désherber autour de la maison, de faire du jardinage, de faire du ménage, parce que l'été, c'est aussi là où le tiroir plein débordant qui me tape ses nerfs depuis un an, mais là, j'ai enfin le temps de le mettre à jour finalement et de l'organiser. Mais tout ça, je peux faire ça tout en remplissant mon cerveau de belles paroles dans différents balados. J'ai d'ailleurs fait plusieurs belles découvertes cet été et je vais les ajouter à ma liste de balados pour le développement professionnel. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est une liste que j'ai développée, une espèce de base de données qui vous permet, avec des petits filtres, de pouvoir faire la recherche selon des thèmes spécifiques. Si vous aimez mieux, par exemple, le numérique ou le numérique en éducation ou des sujets sur la pédagogie ou encore, par exemple, sur le leadership, eh bien, vous allez pouvoir filtrer. Vous pouvez aussi filtrer par durée d'épisode. Donc, des fois, on veut des petits balados courts. D'autres fois, on a un long trajet de voiture à faire puis on veut de longs épisodes. Donc, c'est à suivre sur les réseaux sociaux. Je vais repartager le lien de la base de données régulièrement, mais je vais aussi la mettre à jour dans les prochaines semaines. Qui dit été et vacances dit aussi une tonne de temps pour pouvoir enfin faire des lectures. J'alterne souvent entre des lectures un peu plus légères, mais des lectures aussi que j'ai sur ma liste depuis longtemps parce que là, j'ai enfin le temps de les lire. J'alterne entre des livres papier et des livres sur ma Kindle. Donc, finalement, je passe mon temps à diversifier. J'ai deux suggestions de lecture pour vous. La première est une suggestion du super Alexandre Chenette. C'est un livre en anglais. Why Don't Students Like School? A Cognitive Scientist Answers Questions About How the Mind Works and What It Means for Your Classroom. Donc, c'est un livre sur pourquoi les élèves n'aiment pas l'école. Bon, ils ne se concentrent pas nécessairement sur le négatif, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un spécialiste en neurosciences qui répond à des questions sur comment on apprend, comment le cerveau fonctionne. Ce que j'ai aimé particulièrement, c'est qu'on passe de « Que dit la science » à des applications concrètes pour la salle de classe. Donc, on pourrait lire un chapitre à la fois. On peut le lire tout d'un coup aussi, c'est ce que moi j'ai fait, mais c'est le genre de livre que j'aurais aimé lire à certains moments, prendre le temps de réfléchir et de l'appliquer en classe avant de passer au chapitre suivant. Il y a un chapitre sur la part de la technologie que j'ai particulièrement apprécié et j'ai particulièrement apprécié aussi un chapitre sur comment est-ce que nous, comme enseignant, comme conseiller pédagogique ou autre, on peut apprendre et on peut continuer d'apprendre malgré le tourbillon et malgré le manque de temps. Donc, l'auteur est vraiment très réaliste dans ce qu'il propose. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Une autre lecture en anglais également, Hacking Assessment. Donc, c'est le récit de l'auteur qui a mis en place dans sa classe une classe sans notes. Donc, aucune note donnée aux élèves, seulement de la rétroaction, bien sûr, parce qu'il y a quand même de l'évaluation qui se fait, de la rétroaction qui se fait. Mais comment on vit ça dans un système ou même dans une école où le reste de l'école donne des notes aux élèves? Donc, tout un défi. C'est un petit livre qui se lit très facilement, qui donne des exemples concrets de comment on peut l'appliquer, qui donne même quoi dire à nos détracteurs, par exemple, ou quoi répondre lorsqu'un élève, par exemple, émet un commentaire négatif ou quelque chose du genre sur notre nouvelle pratique. Ça se lit vraiment très facilement, mais c'est un livre qui, comme l'autre que j'ai mentionné, serait à revisiter régulièrement. Donc, c'est le style de livre que je relirais ou que je lirais par morceaux pour ensuite appliquer, voir ce qui marche, passer au chapitre suivant, appliquer, réfléchir. Donc, vraiment des livres qui font réfléchir et évoluer les pratiques enseignantes. Je m'éloigne un peu de l'enseignement, mais pour parler de santé, le nouveau portail québécois Clic Santé que j'ai eu le temps d'apprivoiser finalement, il était grand temps qu'on puisse avoir un portail où on trouve toutes nos informations santé facilement. Je ne suis plus capable, moi, pour prendre un rendez-vous avec un médecin, là, d'être obligée d'appeler le premier mardi du mois à partir de 9h, puis espérer attraper la ligne pour avoir notre rendez-vous. Sinon, c'est plein dans l'heure d'après, puis il faut appeler le mois suivant. Il était temps qu'on ait une solution avec le numérique facile, simple. Bon, on n'est pas exactement rendu là parce que je ne peux pas encore prendre mon rendez-vous avec mon médecin, mais je peux prendre rendez-vous pour, par exemple, des prises de sang, prendre rendez-vous pour la vaccination de façon vraiment rapide. J'ai un calendrier rapidement qui me dit les places disponibles. Ils ont aussi ajouté une fonctionnalité qui permet de pouvoir ajouter des gens dans notre compte pour pouvoir, par exemple, prendre rendez-vous pour nos enfants, pour un parent dont on s'occupe. Ça, je trouve ça bien d'être pas obligé d'aller dans le compte, de s'asseoir avec et tout, de pouvoir dire « je vais gérer ça dans une seule plateforme ». La plateforme est vraiment bien faite. Je trouve ça super. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont ajouter. Mais si ce n'est pas déjà fait, allez créer votre compte sur Clic Santé pour pouvoir voir une panoplie d'options pour pouvoir gérer notre santé. C'est très important. Alors, il semble que Google, de son côté, ne prenne pas de vacances parce qu'il nous offre des nouveautés. Il y en a qui sortent à chaque semaine depuis que l'année scolaire est terminée. Une nouveauté qui est arrivée en juillet, c'est, vous allez me dire, là, ben, il était temps, franchement, on ne pouvait pas faire ça avant, oui, je le sais, mais maintenant, on peut non seulement changer les polices d'écriture dans Google Formulaire, mais on peut aussi mettre en grand, en italique, en souligné, on peut ajouter des liens cliquables, ce qui va être super pratique pour, par exemple, dire dans les descriptions, par exemple, d'envoyer vers un lien d'une vidéo pour supporter l'information, par exemple. Il était temps, effectivement. Dans les descriptions, on va aussi pouvoir mettre des listes de points et par chiffres, ce qui structure beaucoup plus les instructions. Donc, enfin, des petites options qu'on voyait partout, mais qu'on n'avait pas dans Google Formulaire, qui sont arrivées et qui vont être ultra pratiques. L'été, c'est souvent aussi un moment où j'ai enfin le temps de suivre des formations qui m'intéressent, mais que je repousse parce qu'elles ne sont pas urgentes, elles ne sont seulement qu'intéressantes, par exemple. Et cet été, j'ai décidé de me payer la traite et de prendre la version payante de Coursera, qui est un site que j'adore pour apprendre par nous-mêmes. La différence entre la version gratuite et la version payante, bien, la version gratuite que j'utilise depuis des années me permet de visionner les vidéos, de suivre vraiment toute la structure du cours, tout le contenu. Je peux lire les textes, je peux voir les vidéos, je peux même souvent faire les petits tests qui permettent de valider qu'on a tout bien compris, mais je ne peux pas passer les examens et obtenir la certification. Je voulais suivre une certification en gestion de projet et Coursera en offre une avec 6 cours et je voulais obtenir vraiment la certification, donc je me suis payé l'abonnement. Ça me revient à 80 $ par mois, mais on peut arrêter en tout temps, donc on pourrait prendre un abonnement pour un mois à 80 $, suivre le cours qu'on veut, aller chercher la certification et bien sûr, il faut l'avoir fini dans le mois. Ça dépend des cours. Il y a des cours qui sont plus longs que d'autres. Il y en a que j'arrive à compléter vraiment rapidement. Souvent, les temps estimés, on va nous dire par exemple que la lecture va prendre 25 minutes, mais en fait, elle m'en a pris une dizaine de minutes. Ça dépend vraiment du temps que vous allez mettre à la prise de notes et tout. Donc, le temps qu'ils évaluent souvent est de 6 à 8 semaines pour suivre un cours, mais j'arrive souvent à les terminer avant ça, surtout qu'on peut aller à notre rythme. Donc, quand ils disent semaine 1, bien, je peux des fois faire 2 semaines, 3 semaines en une semaine, tout dépendant du temps que j'ai. J'aime beaucoup l'interface de Coursera. C'est simple, c'est organisé, la structure est facile à suivre. C'est clair et les contenus sont vraiment de qualité. On retrouve des entreprises comme Google, par exemple, mais aussi des universités comme Yale qui offrent des cours. Donc, à chaque fois, le contenu est vraiment de qualité, bien structuré, des bonnes vidéos, des textes intéressants, des liens vers des lectures aussi, parce qu'on nous donne, pour aller plus loin, par exemple, des lectures supplémentaires qui sont toujours vraiment intéressantes. Et en juillet, Oculus a annoncé, pas Oculus, mais Meta, parce que maintenant, c'est Meta et non Oculus. Mais tous ceux qui connaissaient la Oculus Quest 1 savaient que dans le temps, on pouvait se créer un compte sur le site d'Oculus, qui est maintenant Meta, et ne pas utiliser son compte Facebook. Lorsque la Meta Quest 2 est arrivée, on obligeait la connexion avec un compte Facebook. Pour certains qui n'avaient pas de compte Facebook, ça créait une problématique. Pour d'autres qui craignaient des enjeux ou qui n'avaient tout simplement pas envie de mettre leur compte Facebook dans la patente, eh bien, ce n'était pas possible. Et ce n'était pas possible non plus en éducation, ce qui était un grand frein, parce que si on achetait, par exemple, quelques casques pour une classe, bien, il fallait les connecter avec un compte Facebook. Et là, est-ce qu'on met le compte des élèves, le compte du prof? Ça n'a aucun bon sens de fonctionner comme ça, bien sûr. Eh bien, Mark Zuckerberg a annoncé au début juillet que dès le mois d'août, on va pouvoir se connecter à nos casques en utilisant un compte Meta plutôt qu'un compte Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir quand même avoir un compte qui va comptabiliser nos achats d'applications, par exemple, mais celui-ci ne sera pas lié à notre compte Facebook. Donc, on va pouvoir le faire avec une adresse courriel, bien sûr, entre une carte de crédit si on veut acheter le tout, mais ça ouvre la porte à plusieurs possibilités en éducation, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas envie de lier leur compte Facebook. J'ai pas pu encore le tester. On parle du mois prochain, donc puisque c'était début juillet, j'imagine que dès le mois d'août, ça va être disponible. Comme usager de Meta, déjà, j'ai reçu l'avis comme quoi je vais pouvoir me créer un compte Meta et dissocier mon compte Facebook. Donc, je vais suivre ça assurément de près, car c'est une super bonne nouvelle pour la réalité virtuelle et tous ceux qui n'avaient pas envie de créer un compte Facebook, parce que de créer un faux compte Facebook, bien sûr, c'est possible, mais ça ne respecte pas les règles de Facebook. Et donc, à tout moment, on pouvait voir notre compte se faire fermer parce que ce n'est pas un vrai compte. Et là, si on avait acheté, par exemple, pour 150 $ d'application pour notre casque Quest et que tout à coup, boum, notre compte est fermé, bien, on perdait toutes nos applications. Donc, ça va être beaucoup mieux si on ne veut pas passer par Facebook de se créer un compte Meta pour pouvoir vraiment garder un certain contrôle sur nos achats. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je continue de partager à une fréquence peut-être un peu moins élevée pendant l'été, mais sur ma page Facebook, je republie ce que je lis, des balados, des suggestions de balados que j'ai écoutées récemment. Même chose sur Twitter, je repartage souvent un paquet de choses, vous allez me trouver facilement. Je suis plutôt côté personnel sur Instagram, partage de photos de voyage, de vie familiale et tout, donc j'ai pas de compte de la geek de service sur Instagram. J'y accepte surtout les gens que je connais avec qui on partage des belles images de notre quotidien. Je me suis lancée aussi sur Twitter. Vous allez m'y retrouver, mais soyez indulgents, c'est très exploratoire pour le moment. Je m'amuse, je teste les fonctionnalités, mais je n'ai pas de stratégie encore pour TikTok. Vous avez toujours mon blog, lageekdeservice.com, où je publie de plus en plus de ressources. C'est d'ailleurs mon défi que je me donne cette année, de bonifier la page avec encore plus de peut-être d'articles, de partage. Et je veux aussi bonifier ma chaîne YouTube, puisque j'alimentais les chaînes YouTube plus au niveau travail, eh bien, elle était un petit peu plus délaissée. Je vais donc la bonifier de plus en plus, la chaîne de la geek de service. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais vous faire des petits tutoriels sur nos outils chouchou, des astuces et autres. Et sur ce, je retourne à mes vacances, à mon hamac qui m'attend et à la prochaine lecture que je vous partagerai. À bientôt!